Monsieur Sirak Gonda, bonjour.
Bonjour, Koina.
Vous avez été candidat malheureux en 2015-2016. Vous voici encore en ordre de bataille pour les élections de 2020. Quelles sont vos chances de gagner?
J'ai effectivement été candidat en 2015 aux élections, mais cette fois-ci, les réalités, la préparation du parti, l'état d'esprit et l'optimisme qui nous anime nous met dans une situation totalement différente. Et je pense que dans le cadre de la plateforme de l'opposition CO2-2020 dont je fais partie, nous allons gagner. Parce que nous avons en face un bilan qui est totalement nul, décevant du régime en place, que nous allons nous permettre de pouvoir analyser avec le peuple qui a vécu ça de bout en bout pendant 4 ans.
Mais tout cela ne suffisait pas dès lors que vous avez seulement 31 candidats investis aux élections législatives. Est-ce que le mariage de vos actions et vos ambitions avec les ambitions du peuple va avoir lieu?
Non, mais je vous ai bien précisé que je fais partie d'une coalition, la coalition de l'opposition, qui a 13 partis, pas des moindres. Le mariage est vraiment un mariage original entre mes ambitions et le nombre des députés que nous allons présenter dans une trentaine de circonscriptions, sinon une quarantaine. Parce que nous avons en principe 50 candidatures. Le PNC est un peu exigeant sur les qualités des gens. Nous ne voulons pas de députés qui viennent pouvoir voler le peuple.
Le problème de la République centrafricaine est aussi vaste. Quels sont les projets dont vous êtes porteur et vos projets de société s'articulent autour de combien d'axes?
Ah, mon jeune frère Koina, vous avez bien dit. Le problème de la République centrafricaine est vaste. Moi, je dis le problème de la République centrafricaine est immense, monumental, abyssal. Le défi est grand à relever. On a dit notre pays est tombé trop bas. Et les gouvernants que nous sommes, nous faisons pas des efforts pour qu'il y ait une symbiose entre l'action du peuple et ce que nous devons poser comme acte tous les jours, conformément à notre serment. C'est pourquoi moi je pense que dans cette situation, dans le cadre de l'opposition où je fais partie, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre de l'opposition, nous avons des grands axes. Moi personnellement, je me dis que je connais tellement bien mon pays que je n'aurai aucune difficulté ramener le bien-être à mon peuple. Les grands axes de ma politique, si je prends ce pays en main, s'articulent autour de 4 points principaux.
Lesquels?
Le premier point, c'est la sécurité. Le deuxième point, c'est notre développement. Le développement de proximité. Se développer nous-mêmes sur la base de nos ressources. Le troisième point, c'est maintenant le secteur social qui est l'éducation et la santé parce que nous avons nous-mêmes mis à terre l'éducation nationale et détruit la santé de notre population. Et le dernier point maintenant, c'est la République centrafricaine à l'extérieur, c'est-à-dire la diplomatie.
Vous avez parlé de mettre à terre l'éducation et la santé alors que Faustin Akoch-Touadéra a augmenté le budget de l'éducation nationale.
Mais non, ça c'est une augmentation sur papier, c'est de la paperasserie, c'est comme exactement on est en train de traiter les travailleurs. Ce n'est pas possible qu'une classe de gouvernants puisse se mettre à augmenter des fonds spéciaux à la primature, à la présidence, et ne pas s'occuper du bras travailleur, comme on l'appelle. C'est eux qui doivent être mis à l'avant. C'est comme tu reviens chez toi à la maison, tu augmentes la boule de manioc de papa et maman, et tu laisses les enfants. Tu ne donnes pas ce qu'il faut aux enfants, alors que c'est les enfants qui doivent grandir pour prendre la relève. C'est la même chose qui se passe avec cette histoire d'éducation nationale où on augmente le budget. Les médecins des hôpitaux gagnent 180 000 ou 100 000. Non, on ne peut pas. Résultat, ils sont tous dans les ONG. Ils sont tous dans les Médecins sans frontières. On les forme directement dans les Médecins sans frontières. J'ai une connaissance profonde de ce secteur. J'ai une connaissance profonde du secteur de l'éducation. J'ai une connaissance profonde de la situation de sécurité. Pourquoi les mouvements de rébellion font tout ça? À tel enseigne que je peux vous dire que je n'aurai aucun problème pour ramener le bien-être à mon peuple dans un seul quinquennat. C'est parce que nous voulons pas le faire, nous prenons pas des actions, nous laissons une petite oligarchie s'accaparer de toutes les richesses, nous bradons les richesses du sous-sol, nous donnons à qui veut venir, fût-il russe, fût-il chinois, alors que vous voyez le Burkina qui en 2003, quand j'étais encore secrétaire permanent du processus de Kimberley au ministère des Mines, était venu nous demander comment ils vont faire pour déclencher les mines. Aujourd'hui, 15% du PIB recette de toutes l'or seulement 333 milliards. Est-ce que c'est normal?
2005, la classe politique s'est déportée à Libreville.
Ouais.
2020, la classe politique à Oyo. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la classe politique est en train de transgresser le pacte républicain qui consiste à trancher le problème centrafricain en République centrafricaine?
Je ne suis pas encore fixé sur 2020, la classe politique à Oyo. Toutes ces situations que vous avez citées, on s'est déporté depuis, je ne sais pas, en 2005 déjà, avec le professeur Abel Goumba et tout le monde, pour aller à Libreville. Ensuite, on s'est déporté à Libreville plusieurs fois pour signer l'accord global de Libreville qui a mis fin à la rébellion et qui nous a permis d'atteindre l'initiative PPTE et commencer à faire décoller le pays. Ensuite, on s'est déporté en Djamena trois fois pour asseoir le CNT.
Mais est-ce que ça, cette situation ne vous gêne pas?
Mais je suis en train de vous dire. Ensuite, on s'est déporté le 11 janvier 2013 pour arrêter l'entrée de Séléka. Donc moi, je pense que c'est à nous, classe politique, de tirer les conséquences que si nous ne voulons pas commencer à nous entendre ici, là-bas, nous ne réussirons pas à nous entendre. Entendons-nous ici, mais amenons plutôt les solutions aux autres. N'allons pas chercher les ententes là-bas et revenir ici pour dire, bon, mettons les solutions. Et c'est pourquoi nous avons toujours demandé au président Touadéra qu'il se concerte avec sa classe politique. On s'entend. On va faire une élection apaisée. Moi aussi, je veux aller aux élections pour rester. Vous aussi, vous voulez aller aux élections pour gagner. Mais on doit faire dans l'intérêt du peuple centrafricain. Et pour ce faire, voilà. Si on a des désaccords, il y a là plateforme religieuse, il y a la société civile, il y a les femmes, et on essaie d'arrondir les angles pour essayer de nous entendre et puis aller aux élections. On n'avait pas besoin de pouvoir attendre aller à Ouyo. Mais on doit aller parce que maintenant, comme on n'arrive pas à s'entendre, c'est pas que ça me fait honte, mais si c'est ça la voie, il y a aussi l'obligation pour les pays de la sous-région de nous aider. Il faut qu'à partir de là, on s'entende et qu'on ne devienne pas dérangeant. On ne devienne pas à Foussin.
Il ne faut pas exagérer, mais les groupes armés veulent exagérer en demandant la concertation, ce que la classe politique a demandé en vain. Comment trouvez-vous la dernière lettre des groupes armés aux facilitateurs et aux garants?
Je m'y attendais, mon jeune frère Cohen. Un rebelle, il faut utiliser le bâton et la carotte. Donc au niveau de la négociation avec l'État, il faut utiliser le bâton, la carotte. Il y a des clauses qui ne pouvaient pas marcher avec les rebelles. L'État a signé comme ça les accords de Khartoum, l'État. C'est impossible que les généraux centrafricains puissent être avec des rebelles en train de faire la patrouille pour discipliner leur propre population. C'était une vue de l'esprit. Et voilà les choses. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose que les rebelles demandent exactement ce que nous demandons. Ça veut dire que ce que nous demandons, ce n'était pas juste pour nous auto-satisfaire.
Une mission de haut niveau séjourne ces derniers jours à Bangui et cette mission préconise de rencontrer la CEO des veuves. Si vous avez un mot à dire à cette mission, ce sera lequel?
Non, je crois que le mot à dire à cette mission, c'est tout simplement que le travail de l'ANE pour la préparation des élections marche de manière abracadabrante. Ça ne va pas. C'est du sens dessous. Le travail de l'ANE comporte et renferme beaucoup d'irrégularités. Il y a des fraudes qui se profilent à l'horizon avec des preuves. Et nous pensons qu'il faut que la communauté internationale contribue à ce qu'il y ait une concertation avec le pouvoir des forces vives avant d'aller à cette élection et qu'il y ait un audit du fichier et l'audit aussi du centre de traitement de données, une vérification du serveur, parce que évidemment, il y a des informations persistantes qu'il y a un serveur en Russie. Même si c'est faux ou c'est vrai, moi j'ai étudié un peu à Leningrad, en Russie. Je connais la mafia russe. Je connais leur capacité de nuisance avec les ordinateurs. Vérifions tous ensemble, demandons un audit du fichier. Le président de l'ANE dit que c'est trop près, c'est faux, c'est pas vrai. Le fichier électoral du Burkina Faso a été audité par l'OIF et l'Union Européenne. L'audit vient d'être déposé seulement le 22 octobre pour une élection qui se passera le 22 novembre. Donc on a le temps.
Monsieur Siga Gonda, je vous remercie.